Attention, et maintenant, les plus précieux serviteurs du disque qui vont œuvrer maintenant pour la joie de tous les amateurs de micro-sillons.
Tout de suite sur Calade, ma radio.
Calade vous propose d'écouter
pour le temps les bêtises.
Amateurs de micro-sillons, bonjour. Pour cette émission animée par The Core et faite entièrement à la main, où l'on fait de sales mélanges à base de bonne musique et de mauvaise foi. Voici 10 ans que David Bowie a disparu. Pour ce deuxième épisode, le premier est disponible en podcast sur le site de Calade Ma Radio. Nous entamons la deuxième partie de carrière de David Bowie. Aujourd'hui, la reconnaissance, le succès planétaire, la dégringolade et la renaissance avant la disparition.
Yeah.
sommes en 1980. Bowie est culte mais vend moyennement. Il joue au théâtre le personnage d'Elephant Man et sort l'album Scary Monsters and Super Freaks. Oui, les monstres, il aime ça. Il y revisite son personnage du Major Tom qui est devenu une âme déchue, flottant entre illusions et désillusions. Il surprend tout le monde avec une approche plus pop mais d'une grande modernité. Créativement, il laisse encore une fois sur place la concurrence, trust les hit parades, deuxième en France tout de même, et fait un carton sur la chaîne naissante MTV avec le clip le plus cher de l'époque. Il apparaît avec un déguisement assez extraordinaire de clown blanc qui deviendra iconique. L'utilisation de l'image toujours. La vague musicale étant alors celle des néo-romantiques, il va directement dans les clubs repérer des personnes dans le public avec des vêtements remarquables et il les fait figurer tel quel dans le clip. Une fois encore, il devance son époque, s'ensuivent 3 ans d'absence, le temps de mijoter le projet du succès définitif Let's Dance. Avec ce disque, dont la production a esbrouffé à l'époque mais a très mal vieilli, le pire des années 80, il réalise enfin le véritable crossover. Il devient une star mondiale. Il est en même temps aidé par sa prestation dans le film Furio, qui a très mal vieilli aussi. Mais la tournée qui suit est par contre remarquable. Je peux en témoigner pour l'avoir vu avec un groupe de folie. De 1984 à 1987, il occupe le terrain. Il fait un duo assez ridicule avec Mick Jagger sur une reprise de Dancing in the Streets où il fait un concours de saut de cabri en manteau maxi. Il fait un autre duo avec Freddie Mercury, Under Pressure, qui sera repris plus tard en tournée. Mais s'il occupe la scène et engrange des royalties, artistiquement, c'est le vide abyssal. Il prolonge par des apparitions cinématographiques dans les films Labyrinthe, où il inaugure encore un nouveau personnage, et Absolute Beginners, qui vaut essentiellement par le morceau-titre. Les albums Tonight et Never Let Me Down, au son clinquant et vulgaire, sont catastrophiques. Mais Bowie est maintenant bankable, comme on dit, dans ses années de médiocrité. Il faut produire pour les masses, il y est poussé et il s'y plie assez docilement. Pour Never Let Me Down, il dira plus tard « Je n'aurais pas dû l'enregistrer, quand je l'écoute, il m'arrive de me demander si c'est bien moi ». Une question se pose alors, est-il capable de retrouver son instinct et de tourner le dos à ce cirque populiste qui ne lui va pas ? Conscient, il crée un groupe, Teen Machine, dont il est un membre comme les autres. Enfin, c'est ce qu'il dit, peut-il être un membre comme les autres ? Il dit « Il fallait que je retrouve la passion et l'émotion, je ne pouvais pas continuer comme ça, soit c'était de la merde, soit dégagé ».
From the old.
ce projet Tin Machine avec le très démonstratif et prévisible guitariste Reeves Gabrels et les frères Sales à la rythmique basse-batterie. Les frères Sales qui avaient joué sur Lust for Life d'Iggy Pop. Le groupe produira deux albums très, trop rock années 90, plutôt lourdingue. Ces albums ne comportent pas de compositions mémorables et sont un peu trop tapageurs. Bowie veut coller à l'époque, il n'anticipe plus, il suit. Il fonce vers ce type de musique qui est déjà daté car l'époque est à la house music. Néanmoins, ces disques montrent un regain de créativité et d'énergie. Il y croit d'ailleurs au groupe. C'était mon premier groupe depuis les Conrads en 1963. On est vite devenu un vrai groupe, c'était génial. Effectivement, ça devait être un groupe avec de sacrés compromis pour supporter les solos de Reeves Gabrels que je suis en train de vous épargner là. Pour le deuxième album, il affirme que c'était la meilleure chose à faire pour résoudre sa crise de la quarantaine. Ça devait être une sacrée crise. En 1994, Bowie épouse le mannequin Iman et il s'installe à New York. Il tourne avec David Lynch, ce qui n'est pas anodin car Lynch est un génie et ça c'est un signe qu'il veut à nouveau être au centre de la création artistique. L'album What Tie, What White Noise, coécrit avec Reeves Gabrels, qui, guitaristiquement parlant, je l'ai dit, je suis arrivé à le dire, sera moins envahissant, revient à une inspiration de musique noire avec tout de même le son de l'époque. Le morceau titre est inspiré des émeutes de Los Angeles. Il utilise des images de publicité Benetton, éloge de la mixité raciale, et les superpose au feu des émeutes.
I know I won't kill you, and I turn my back, for I know you won't. Pour le temps des bêtises.
Ma radio.
Les précieux serviteurs du disque.
David Bowie est à nouveau adoubé par la nouvelle scène Britpop, Suède et Oasis en tête. Oui, oui, les frères Gallagher peuvent dire du bien de quelqu'un tout à fait exceptionnellement. Oasis qui reprend Heroes en scène. Il enchaîne sur un projet de musique de film, The Buddha of Suburbia. Un seul morceau sera présent dans le film, mais de ses extraits musicaux, il tirera cet album dont il a pensé plus tard que c'était l'un de ses meilleurs de sa carrière. Bowie est de nouveau connecté à son époque, on y entend des sons électroniques techno et dance, mais aussi des ambiances jazz où le piano de Mike Garson fait des merveilles. Comme Bowie est habile et cultivé, il évite les facilités à la mode électro de l'époque et il expérimente de nouveau. On retrouve le Bowie classique, soit succès critique mais échec commercial, car le public ne suit pas et ce disque reçu dans l'indifférence et peut-être pénalisé par une certaine disparité tombe vite dans l'oubli, hélas. Mais Bowie, qui a repris les méthodes de travail de Brian Eno, va retrouver celui-ci et scotcher tout le monde avec un nouveau chef-d'œuvre, voire plusieurs, une longue ligne droite de chef-d'œuvre.
Thank you. friendly. Sitting in the Life Hotel, the heart's filthy lesson, with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only something between us, other than our clothes, something in our sky, something in our sky, something in our blood, something in our sky. Who's been wearing the lenses of clothes?
Outside, David Bowie renoue avec Brian Eno. Il n'a rien écrit avant d'entrer en studio. Par contre, il a apporté peinture et chevalet. Et les deux compères se servent du jeu de cartes des stratégies obliques inventées par Eno pour stimuler la créativité. Bowie dit « Ce qui est formidable avec ces jeux, c'est qu'ils vous libèrent et vous permettent d'adopter des comportements que l'on trouverait gênants ou irrationnels dans d'autres circonstances. » Grâce à ces improvisations, Dylan, les deux carburent à fond et une histoire est écrite et enregistrée en 10 jours. Cela sera un concept album sur une enquête menée par un détective imaginaire, Nathan Adler. Enquête très lynchienne, donc cela n'est pas une vraie histoire au sens traditionnel du terme, mais un récit éclaté dont il nous appartient de faire les connexions. Le disque est un chef-d'œuvre, je le répète, pour les fans comme moi, le très très grand retour d'un très grand David Bowie. C'est un disque long, prenant, intense, obscur et frénétique, où les contributions des musiciens, dont Tal Omar et Gabrels, sont noyées et retravaillées jusqu'à être méconnaissables. Un disque parfois difficile qui reflète l'idée que Bowie se fait du monde aux abords du nouveau millénaire. Une société où l'information est livrée à elle-même, sans hiérarchie, sans récit linéaire. Visionnaire à nouveau, le bonhomme. La pochette, une de ses peintures, arrive à la fois à communiquer de la violence et de l'effacement. Allez aussi voir les clips qui sont assez fabuleux. Comment alors envisager la suite ? D'abord, juste au retour des choses, après la rencontre ratée de ses débuts, il joue le rôle d'Andy Warhol dans le film Basquiat, aux côtés de Gary Oldman et Dennis Hopper. Tiens, lui, Dennis Hopper, il faudrait lui consacrer une émission. Il a toujours été là où ça se passait. Bowie forme alors aussi le groupe qui sera quasiment son groupe définitif de tournée, avec la bassiste Gail Ann Dorsey, le batteur Zachary Alford et le fidèle pianiste Mike Garson. Reeves Gabrels est toujours là, un jour remplacé par Earl Slick. Bowie se saisit alors de la drums and bass, musique de l'époque, pour l'album Earthling, où il pose de dos face à la campagne anglaise avec sa fameuse redingote Union Jack. La drums and bass est donc aspirée, digérée et régurgitée à la mode Bowie. S'y rajoute son génie mélodique, ses compétences de créateur et d'arrangeur pour un disque plus accessible, terriblement mélodique et efficace.
Shampoo, TV, come back, boys on, slim tie, showdown, can't stop. Sky.
En 1999, David Bowie est reconnu, il a 52 ans, il en paraît toujours 30, il est riche, il est heureux, il continue le cinéma avec succès dans différents rôles, on retiendra celui du film The Prestige notamment, et il est devenu un businessman avisé, créant sa société et négociant âprement son catalogue. Tournant alors le dos aux albums précédents, il décide de faire un album différent. Cette fois-ci, il écrit tout à l'avance avec Gabriels. Hours sera un album tourné vers le passé. C'est un très beau disque, étonnamment apaisé. Il dit « Ce fut un véritable exercice de trouver des remords, des reproches envers soi-même, des regrets, et je voulais en faire le thème de cet album. » Il revient notamment sur la marque qu'a été la maladie mentale de son frère. Hours est un magnifique album sur la crise de l'âge, lorsqu'on se retourne vers le passé, que l'on a besoin de se réconcilier avec celui-ci pour aborder le présent et l'avenir. La pochette de l'album, où il repose dans ses propres bras, est inspirée des Pietà du Moyen-Âge, la confession des péchés pour trouver la rédemption.
Now that
passe quand même le millénaire sans encombre. Il joue de nouveau à Glastonbury, qui est devenu bien autre chose que le premier festival hippie. Il tourne, il a déjà une vision de ce que deviendra la musique dans le futur. Il dit « La musique deviendra comme l'eau courante et l'électricité. Alors profitez de ces dernières années, car rien de tout cela ne se reproduira plus jamais. Mieux vaut se préparer à faire beaucoup de tournées, car c'est la seule situation qui va rester. » Voilà, il a dit ça et bientôt 30 ans et nous y sommes. Il redevient papa, il se parodie lui-même de façon désopilante dans le film Zoolander. Il travaille les maquettes de l'album Toy, mais un pataquès avec la maison de disques empêche la sortie. Il crée donc sa propre structure et reprend la collaboration avec Tony Visconti, avec qui il était brouillé. Il envoie alors les impeccables albums Even et Reality, réalisés les deux en 3 ans. Albums qui allient encore de grandes inspirations mélodiques et des expérimentations. J'ai eu la chance de voir David Bowie sur le fameux Reality Tour, son dernier. Alors débarrassé de tout atour, il se présentait simplement, décontracté, souriant, jouant comme devant une bande de potes. Il faisait tourner le jukebox sans nostalgie, réinterprétant malgré tout tous ses plus grands morceaux avec un groupe exceptionnel, Gail Anderson, basse et chant, Earl Slick et Jerry Leonard aux guitares, Mike Garson toujours là au piano, Sterling Campbell à la batterie et Catherine Russell guitare et clavier. Et ça donnait ça quand Gail Anderson reprend la partie vocale de Freddie Mercury sur Under Pressure.
Go girl.
Give love.
ce morceau, il chante This is the last dance, donc avec la fabuleuse bassiste-chanteuse Gail Ann Dorsey. Et oui, ce fut la dernière danse, la dernière tournée. En 2004, David Bowie était en tournée dans le monde entier et son groupe ne l'avait pas vu aussi exubérant et énergique depuis des années. Tout se déroulait parfaitement jusqu'à un concert à Prague, en République tchèque. Le guitariste Earl Slick dit « Je l'ai vu se pencher en avant, voûté. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas et j'ai appelé le manager. » Il est amené en coulisses immédiatement. David Bowie est en réalité victime d'une crise cardiaque. Il a fini la tournée deux jours plus tard en Allemagne, mais sans l'énergie et la bonne humeur du début. À l'issue du dernier concert, le chanteur est d'ailleurs parti dès la dernière note du dernier morceau en ambulance, épuisé et en souffrance. Il ne tournera plus, se fera très rare, mais réalisera encore l'album The Next Day avec sa pochette qui fait référence à celle de Heroes. Une boucle est bouclée. L'album peut être un peu long, est excellent quand même, et dans le morceau Where Are We Now que je vais passer tout à l'heure, il fait référence à ses années berlinoises dans un très beau clip encore novateur. Cependant, le clip suinte le malaise. Les rumeurs courent, on sent la maladie, la mort rôder. Bowie semble dire adieu à ce passé. Puis pour l'exposition David Bowie, il sort un étrange EP 25 cm de jazz bizarre qui va préfigurer son dernier album Black Star. Il est alors malade, se sait condamné, mais fera montre jusqu'au bout d'une énergie et d'une créativité incroyable. Il va faire appel à de jeunes musiciens de jazz expérimental. Avec l'aide de Tony Visconti, il va tout rebidouiller comme à son habitude pour son dernier chef-d'œuvre, sans doute le plus intense. L'album sort deux jours seulement avant sa mort et avec ce disque, il fait de sa mort une œuvre d'art, fidèle jusqu'au bout de sa vision, à sa vision. Il a trouvé le moyen de repousser les limites et de créer quelque chose de transcendant. David Bowie est décédé à l'âge de 69 ans en janvier 2016, après avoir lutté pendant 18 mois contre le cancer. Et le monde part en sucette depuis que David Bowie est mort. Dans son dernier clip, le Major Tom apparaît à nouveau. C'est une dernière fois en squelette dans une combinaison spatiale échouée sur une planète désertique.
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead. The moment you know, you know, you know.
with suns, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything.
Se termine. Je me dois de citer les sources de documentation qui ont alimenté les deux émissions de janvier. Tout d'abord, tous les articles du journaliste français Jérôme Soligny, proche de David Bowie, et sans doute le plus grand expert sur le personnage. L'ouvrage « Bowie, les années studio » de Paolo Hewitt. Les émissions de Mishka Assayas, bien entendu, sur Radio France. Et le magnifique livre de l'exposition « David Bowie is. Voilà, portez-vous bien, tenez-vous mal, gardons la joie dans ce monde qui part en sucette depuis que David Bowie est mort.
Les bêtises.